Alors, il y aurait deux ou trois petites questions. Aujourd'hui, les théologiens voudraient parler de l'Église comme d'une personne. Alors, j'ai pris un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps pour vous lire un petit passage et que vous puissiez nous éclairer. L'Église est une personne mystique dont le corps est composé de membres innombrables et qui subsiste naturellement en eux et par eux. En ce sens, s'il n'y avait plus de chrétiens, il n'y aurait plus d'Église. Mais par son âme, qui anime ce corps et enfante ses membres, elle transcende de manière surnaturelle les personnes humaines qui la composent. Elle est bien plus qu'une personne morale ou juridique, bien plus qu'une institution humaine, comme la nation par exemple, douée d'un patrimoine historique et culturel commun, mais qui ne subsiste que dans et par ses citoyens.
Oui, quand on parle de l'Église subsistance mystique, bon, c'est un terme qui du reste a été employé, il serait intéressant de savoir à partir de quel moment, mais il y a le livre...
Père Chardon.
Oui, Chardon, qui est très net là-dessus, substance mystique. C'est le Christ et l'Église. L'Église n'est pas une personne en face du Christ, une personne. Et c'est ça qui est terrible là-dedans. C'est qu'on fait croire que l'Église est une personne distincte de la personne du Christ. Mais non. La personne du Christ, c'est le Verbe. Et le Verbe assume la personne du Christ d'une façon physique. Le Verbe nous assume d'une façon mystique, parce que ce n'est pas physique. Alors on dit mystique, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors on dit mystique. On est tous liés au Christ mystiquement. Alors j'analyse, qu'est-ce que ça veut dire mystique ? Par la grâce, par les vertus théologales, je suis lié au Christ. Je ne peux pas faire un acte de foi sans que le Christ fasse avec moi cet acte de foi. Je ne peux pas faire un acte d'espérance sans que le Christ fasse avec moi par le Saint-Esprit, par le Paraclet. De même l'amour. C'est par les vertus théologales que je suis lié mystiquement. Alors, dit mystiquement, c'est-à-dire la grâce. C'est par la grâce. Et alors que ce qu'on vient de lire a l'air de faire une espèce d'opposition. Vous voyez ? L'Église n'existe que par Jésus et par l'Esprit Saint, et par le Père. Elle n'existe pas en elle-même. Or, la personne, c'est justement exister par soi. La personne humaine, hein, quand je fais un acte personnel, je veux dire que cet acte vient de moi. J'en suis responsable. J'en suis donc l'auteur propre. Et je dirais, parce que je suis une créature, cet acte présuppose l'action de Christ, l'action de Dieu. Et parce que je suis chrétien, cet acte présuppose l'action du Christ. Mais c'est de moi, et c'est du Christ en moi. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez y répondre tout de suite. Hein. Parce que c'est tellement important, ça. Oui. personne mystique, ça veut dire que ce n'est pas ma personne, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la personne mystique, c'est le Christ qui vit en moi. Et tous les chrétiens peuvent dire ça. Et donc c'est la personne du Christ.
Je crois que le père Chardon fait une analogie entre la subsistance de la substance et puis la grâce du Christ par laquelle nous sommes nous aussi.
Tout à fait, c'est la grâce. Il ne met pas du tout de subsistance que l'Église soit une personne. Et il y a d'autres passages qui sont analogues à ça. Pour rectifier. Oh, vous les regarderez. Hein. Parce que si on... Vous voyez, quand on parle de personne pour l'Église, faisons attention. L'Église, elle, est totalement relative au Christ. Elle est totalement relative au Christ.
Oui, on a l'impression tout à fait qu'il parle de l'Église comme d'une personne. Vous voyez, il dit par exemple... De même et surtout, c'est la personne de l'Église qui prie et qui offre à Dieu dans l'Eucharistie le sacrifice de son Fils, auquel elle s'unit tout entière.
C'est pas l'Église. Vous relisez ?
Oui.
Pour qu'on écoute bien. Parce que...
De même et surtout, c'est la personne de l'Église qui prie et qui offre à Dieu dans l'Eucharistie le sacrifice de son Fils, auquel elle s'unit tout entière. Tous les sacrements sont des actes de la personne du Christ, mais aussi, inséparablement, de la personne de l'Église, son épouse.
C'est vrai, c'est une équivoque.
C'est limite.
Oui, ça c'est... C'est un peu l'expression qu'il y avait de mettre de l'Église, faire de l'Église un tout distinct du Christ. Alors ça, moi, l'Église, ce sont des chrétiens. Les chrétiens, ils sont chrétiens par la grâce du Christ. Et ils sont relatifs au Christ et pas relatifs à eux-mêmes. S'ils étaient une personne autre que le Christ, ils seraient d'abord relatifs à eux pour être relatifs au Christ. Or, nous ne sommes pas relatifs à nous-mêmes avant d'être relatifs à Dieu.
Alors, autre question.
Il faut noter quand vous avez des questions comme ça. Justement, il ne faut pas les gober. Hein. Dire oui, c'est ça. Non. Regardez dans l'Écriture si on a l'impression que l'Église, c'est le fruit de la croix. Comme Marie, c'est le fruit de la croix. Si c'est le fruit de la croix, et ça provient de Jésus. Et ce fruit de la croix reste dépendant de la croix. Causalité équivoque de la croix sur nous. Et non pas un fruit qui soit distinct de Jésus.
Saint Thomas regarde les charismes avant tout du côté de la communication de la vérité. Puisque Jésus est la vérité qui nous donne l'esprit de vérité, le paraclet, qu'est-ce que cela change à la manière dont nous devons user des charismes pour communiquer la vérité?
Oui, il y a un très gros problème. Je suis déjà venu là-dessus. Et au fond, il reste quelque chose auquel on doit tout le temps revenir. C'est lorsque Jésus parle du paraclet. Jésus 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où t'en vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché, de justice et de jugement. De péché parce que il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevrez plus. De jugement parce que le Christ est ce que le monde. Jésus parle que le don du paraclet est lié à son départ. Si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le paraclet. Or, comment s'en va Jésus? Il s'en va par la croix. Donc, du fait que Jésus accepte de partir par la croix, il peut nous envoyer le paraclet. Alors, qu'est-ce que le paraclet ajoute à l'Esprit Saint? C'est une question, je crois, qu'on doit toujours se poser. Parce que il y a un mystère. Et un mystère très important pour nous. Puisque nous vivons sous le paraclet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, nous nous contentons de dire « Oui, ça, c'est l'Esprit Saint. » Je crois que on peut dire que la plupart du temps, nous avons mis longtemps avant de dire, mais puisque Jésus emploie un nouveau mot, c'est que Jésus veut nous montrer qu'il y a une action différente de l'Esprit Saint. Autrement, Jésus n'emploierait pas un nouveau mot. Parce qu'il emploie un nouveau mot, s'il n'y a pas de changement, employer un nouveau mot, c'est nous mettre dans une position de ne pas comprendre. Si Jésus emploie un nouveau mot, c'est pour que nous comprenions l'action nouvelle du paraclet. Alors, quelle est cette action nouvelle du paraclet? C'est très important, puisque ça nous est présenté comme l'action propre du Christ crucifié. L'action propre du Christ crucifié, c'est de nous envoyer le paraclet. C'est le fruit de la croix. Or, le paraclet, l'Esprit Saint, le paraclet, c'est l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint envoyé selon un mode particulier. Un mode nouveau. Un mode qui est propre à la croix, et qui est relié à la croix. Alors, il s'agit de comprendre comment l'Esprit Saint peut être envoyé d'une façon nouvelle à partir de la croix. C'est un problème de théologien, ça. Là, c'est de la théologie. Oui, voilà, la théologie, c'est vraiment ça. À partir d'un texte de l'Écriture, net, comprendre ce que ça veut dire. Si ce n'est pas explicité, Jésus simplement nous le dit, il explicite un tout petit peu en nous montrant l'action de l'Esprit Saint sur nous après. Mais il n'explique pas la manière nouvelle dont l'Esprit Saint doit agir sur nous. Donc, si Jésus n'explicite pas, il nous laisse le soin de l'expliciter. Et je me souviens bien que le père, ce grand exégète là, j'oublie tout
Feuillet.
Ça, le père Feuillet, que j'aimais beaucoup, et il m'aimait beaucoup aussi, et il aimait beaucoup Saint-Jean. Le père Feuillet, quand il est arrivé, parce qu'il a fait un petit livre, quand il est arrivé à ce passage de Saint-Jean, m'a écrit très humblement « Un exégète souligne l'importance d'un nouveau mot. Il essaie de comprendre la signification de ce nouveau mot. Mais comme paraclet est employé uniquement là, dans Saint-Jean, il n'a pas beaucoup d'explications. Et dans la Bible, il est employé 3-4 fois. Mais du fait que Jésus l'emploie, il prend une signification nouvelle. Parce qu'il est attribué à une personne divine. Donc, le père Feuillet, très humblement, disait, l'exégète montre l'importance du Christ, l'importance du don du paraclet, puisque le Christ emploie un nouveau mot. L'Esprit-Saint. Non. Un nouveau mot, c'est-à-dire une action nouvelle de l'Esprit-Saint sur nous. Et ce mot, l'exégète ne peut pas dire grand-chose, étant donné qu'il est très peu employé. Et que employé ici, à l'égard de l'Esprit Saint, il a sûrement une signification tout à fait spéciale. Alors le père Feuillet disait, c'est à vous, théologiens, d'expliquer ça. C'était très juste pour voir la coopération de l'exégète avec le théologien. Le théologien doit essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus désire nous faire comprendre quand il nous dit cela. Et il nous dit ça dans un discours extraordinairement important, parce qu'il va nous quitter. Et il sort aux apôtres. Alors, on doit, en tant que théologien, chercher. Je pars de ce principe. Chaque fois que Jésus réclame une obéissance spéciale à Jésus, chaque fois que le Père réclame une obéissance spéciale à son Fils, il y a un don particulier que le Père fait. Autrement dit, il y a toujours une réponse du Père à un acte d'obéissance. Le Père ne nous laisse jamais mettre un point terminal sur un geste d'obéissance. Or là, il demande au paraclet à Jésus de faire quelque chose de spécial. Il t'a envoyé. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce qui peut changer à l'envoi de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc, si le Fils est modifié et que c'est à ce moment-là qu'il demande l'Esprit Saint, le Fils, en tant qu'envoyant l'Esprit Saint, est modifié, puisqu'il est offert sur la croix. Il est dans un état victimal. Et comment cet état victimal de Jésus peut modifier l'envoi du paraclet, l'envoi de l'Esprit Saint, et faire que cet envoi soit l'envoi du paraclet? Quelle est la transformation qu'il peut y avoir? Il est donné à partir de Jésus et de Jésus immolé. Et donc, puisque c'est à partir de Jésus immolé que le Saint-Esprit peut avoir quelque chose, un mode particulier par lequel il nous est donné, quelle est cette transformation? Vous voyez le raisonnement du théologien. Le Saint-Esprit inspirait du Père et du Fils. Si le Fils est immolé dans un état d'immolation, c'est-à-dire être complètement offert au Père et offert aux hommes, son offrande, qui implique le point de vue qu'il est l'agneau, immolé, c'est l'agneau. Le paraclet est donné à partir de l'offrande du Christ. clé nous sera donnée. Il sera inspiré dans l'amour à partir de l'offrande du Christ. C'est-à-dire avec un amour unique. Un amour qui fait que Jésus est totalement offert en lui-même. Et le fait que Jésus est totalement offert en lui-même, il est donné d'une façon unique. Il est donné d'une façon tout à fait spéciale. Je crois que c'est cet état de Jésus immolé, complètement offert, c'est à travers l'immolation du Christ que nous est donné. C'est à travers ce geste d'immolation que cette qualité du don se fait. Alors, il y a comme une divine émulation. Si Jésus se donne totalement à la croix pour nous, cette immolation du Christ sera exemplaire pour le don de l'Esprit Saint. C'est le Fils Jésus et l'Esprit Saint. Il y aura donc du côté du don de l'Esprit Saint, quelque chose de nouveau, une espèce d'intériorité plus grande, puisque c'est vraiment l'offrande totale du Fils. Par cette intériorité, par cette offrande que l'Esprit Saint est donné, dans une intériorité d'amour unique. C'est donc une intériorité du don de l'Esprit Saint beaucoup plus grande. L'Esprit Saint sera donné pour que nous vivions de cette intériorité du don du Verbe. Que nous puissions découvrir combien il se donne, combien il est donné dans l'intimité de son cœur. C'est dans ce sens-là que nous devons préciser. Arriver à saisir d'une façon intime ce don que Jésus nous fait de ce qu'il a de plus précieux et qu'il nous donne. Simplement il nous passe. C'est Jésus totalement donné esprit, source de l'Esprit Saint. Donc, à partir de la croix, il y a une intimité nouvelle avec l'Esprit Saint. Et cette intimité nouvelle avec l'Esprit Saint fait que ce que l'Esprit Saint met en nous, d'intimité avec Jésus, nous introduit dans une intimité nouvelle avec Jésus. Jésus meurt pour nous donner l'Esprit Saint, pour nous le donner d'une façon plus aimante. Je crois que c'est ce que nous pouvons dire, cette intériorité beaucoup plus profonde à l'égard du don de l'Esprit Saint. L'amour, puisque l'Esprit Saint c'est l'amour, l'amour peut se donner à nous de l'extérieur. Ce que l'Esprit Saint était donné dans l'Ancien Testament, où l'amour peut, de l'intérieur, être donné, sans nous écraser. Il peut nous renouveler, et nous renouveler substantiellement, nous renouveler entièrement. Je crois que c'est là la réponse de Dieu au sacrifice du Christ fait pour nous. C'est pour nous que le Christ est victime d'amour. Et donc la réponse du Père, c'est pour nous. Et la réponse du Père, c'est de mettre une intériorité d'amour beaucoup plus profonde que celle. Il n'y a pas de réponse, hein, c'est seulement une constatation qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Et nous devons tâcher de la comprendre. Je crois que c'est ce qu'il faut essayer de comprendre pour comprendre qu'à partir de là, l'Esprit Saint fait entre notre cœur et le cœur de Jésus une unité beaucoup plus profonde. Ça va dans toute cette dévotion au Sacré-Cœur qui s'est explicitée petit à petit. C'est l'intériorité, l'immanence du don d'amour. Et l'Esprit Saint, vraiment, et c'est cela qui fait le noyau le plus secret de notre vie chrétienne, auquel nous devons revenir toujours, puisque notre union à Jésus crucifié se fait tous les jours par le sacrement de la messe et le fruit. Je crois qu'il faut être très attentif à cette expression paraclet. C'est le don intime de Jésus pour nous et qui se fait à la croix.
Il y aurait une petite question tout de suite par rapport à ce que vous venez de dire. Cet état d'immolation, pour nous, en vie religieuse, nous la vivons surtout à travers l'obéissance.
C'est dans l'obéissance qu'il est vécu.
Et hier, vous nous avez parlé comme d'une double obéissance, dans le don de Marie à Jean, et puis des brebis à Pierre.
Sûrement, ah oui. Vous pouvez voir le fruit premier qui nous est donné, ce sera la maternité Marie à l'égard de Jean. C'est dans la maternité de Marie à l'égard de Jean que Jean comprend cette intimité nouvelle avec le Saint-Esprit, avec Jésus.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une alliance particulière du Paraclet avec la vie consacrée ?
Oui. Et ce que je vous avais dit, le Marie à la croix, quand Jésus lui dit « Voilà ton fils », cette parole qui regarde Marie et de Jean, regarde notre cœur et le cœur du bien-aimé, modifié, transformé par cette offrande d'amour. C'est-à-dire, je vous avais dit, tout le mystère de la vie religieuse, qui est le fruit de l'offrande de Marie. Nous vivons dans notre vie religieuse, si nous en sommes conscients, de l'offrande de Marie au Père. De l'offrande de Marie au Père. Il y a vraiment là quelque chose d'ultime qui se continue dans la consécration religieuse. Et dans cette consécration religieuse, Jésus a voulu séparer le don de Marie à Jean et le don fait à Pierre pour gouverner l'Église. C'est Jésus lui-même qui a voulu que ces deux dons soient séparés, soient distincts. Je ne dis pas opposés, mais distincts. Le don qu'il fait de Marie, c'est l'intériorité voulue par le Saint-Esprit, réalisée par le Saint-Esprit. Et le don fait à Pierre, c'est Jésus communiquant à Pierre ce pouvoir spécial de gouverner l'Église. Je crois qu'il ne faut jamais séparer les deux. Et le don fait à Pierre est après. C'est très curieux de voir que le don fait à Marie du Paraclet est tout à fait intérieur et donc réalisé d'une manière tout à fait intime. Le don fait à Pierre est très explicite par Jésus après la résurrection. Parce que c'est un don qui fait que Pierre doit non seulement respecter l'action du Saint-Esprit sur Marie, mais il doit avoir un certain regard sur toute la vie extérieure de l'Église. Puisque, de fait, il faut mettre en parallèle parallèle, ces deux dons, comme les deux fruits, comme les deux fruits de la croix, de l'oblation de la croix, comme les deux fruits de l'offrande du Christ, et comme les deux fruits manifestant la grandeur de l'offrande de Jésus pour son Père. Et ceci permet pour nous de voir distinctement consécration religieuse et soumission à l'autorité de Pierre. Elle est deux. Et il y a suffisamment de distance entre les deux pour que nous ne les identifions pas. Autre chose est dans la vie religieuse d'avoir ce lien avec Marie, ce lien personnel. Le don de Marie à Pierre, le don de Pierre à Marie et à Jésus est premier grâce à ce don. Pierre est capable d'offrir l'amour, l'aide à Jésus. Il y a un point de vue qui me semble très important, parce que c'est le point de vue le plus profond de tout le gouvernement de Pierre sur l'Église. Il y a d'abord la maternité de Marie, ensuite il y a l'autorité de Pierre. Ça nous permet de mieux saisir comment l'autorité de Pierre est une autorité divine pour diriger Pierre vers le Christ. Et comment l'autorité de Pierre dépasse tout le temporel, mais implique le temporel. Alors, c'est cela qu'il faudrait expliquer. Jésus s'adresse à Pierre d'une façon tout à fait particulière. Par trois fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il n'a pas dit ça à Marie, hein. Marie a vécu le mystère de la croix avec lui et par lui. Donc l'unité d'amour existait. Simon était absent à la croix. Pierre était absent. Jésus lui rappelle Et c'est